Je vous invite à chercher dans votre Bible la première épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 4. On va voir simplement quelques versets. On est dans une série sur la vie de disciples. Et aujourd'hui, on aimerait, comme vous vous en doutez, regarder un peu ce que c'est que l'hospitalité. Je voudrais commencer avec première pensée. Vous avez déjà joué à cache-cache. Pour certains, peut-être ça remonte un peu loin, mais pour d'autres, c'est plus récent. Vous avez déjà joué à cache-cache et puis la personne commence à compter et puis à ce moment-là, tout le monde se disperse et cherche une cachette. Et là, vous trouvez une cachette, vous êtes tout content, vous commencez à vous installer là, et puis il y a quelqu'un qui est derrière vous, qui dit « Non, dégage !» Alors vous sortez là, vous allez rechercher une autre cachette, et puis à ce moment-là, rebelote, « Non, il n'y a pas de place pour toi, on va se faire repérer, va-t'en !» Et puis là, il commence à arriver à la fin de son compte, et là, vous avez toujours pas de place, vous courez toujours dans tous les sens, et puis à ce moment-là, il y a quelqu'un une voix qui dit « Hé, viens !» Bien si. Puis là, vous êtes accueilli par une personne. C'est ça l'hospitalité. L'hospitalité, c'est faire de la place à quelqu'un dans le besoin, dans ma vie, au risque de ma vie. Faire de la place à quelqu'un dans ma vie, au risque de ma vie. Pierre, il écrit cette épître aux croyants qui sont dispersés à cause de la persécution romaine. Ils sont dans une vaste étendue qui est aujourd'hui la Turquie actuelle et ils sont en train de se cacher. Imaginez ce que ça représentait, ces temps de persécution pour les chrétiens. Imaginez-vous laisser tout ce que vous avez. Imaginez-vous vous enfuir dans un pays qui n'est pas le vôtre, parce que vous êtes chrétien. Vous ne savez pas où vous réfugiez, vous ne connaissez personne. Et les chrétiens de la région, vous savez qu'il y en a, eux-mêmes se cachent de peur des représailles. Vous ne savez pas comment les rencontrer. Pierre écrit et il commande aux chrétiens de l'époque, chapitre 4, verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Le monde dans lequel nous vivons est souvent très superficiel, individualiste, de plus en plus virtuel. Et pourtant, les gens continuent à espérer et à rechercher des relations authentiques, des relations de confiance. Ils aspirent à la justice. Ils aspirent à la joie. Ils aspirent au véritable amour. Et ils recherchent des réponses au sens de la vie. Ils cherchent des réponses à la mort. L'Évangile répond de manière unique à toutes ces questions. Mais comment entendront-ils ces réponses? Tous, nous sommes sensibles à l'accueil que nous recevons, quel qu'il soit. L'hospitalité a cette faculté d'ouvrir nos cœurs. Quand on est accueilli chez quelqu'un, il y a comme une barrière qui tombe dans nos cœurs, de nos cœurs. Et nos cœurs s'ouvrent, se disposent et sont prêts à entendre les réponses de l'Évangile. Ce matin, je vous propose de voir la beauté de l'hospitalité. On verra ensuite le défi, mais ça nous a déjà été pas mal illustré. Et puis, on verra enfin le Dieu hospitalier. Dans le verset 8, il dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Pierre, vous rendez compte, il est réaliste. Il sait qu'il va y avoir des disputes, Comme dans toute famille, il y aura des disputes, il y aura des tensions, il y aura des problèmes entre chrétiens. Mais l'Évangile, pratiqué dans notre vie d'Église, dans notre relation les uns avec les autres, va nous permettre de nous souvenir de comment Jésus-Christ nous a pardonnés, de nous souvenir comment nos péchés ont été effacés, de sorte qu'on puisse simplement prendre soin les uns des autres, s'aimer. Et on sait que les relations sont restaurées justement parce qu'on est rendu capable de prendre un repas ensemble. Quand on mange ensemble, c'est que tout va bien. On aime manger avec ceux avec lesquels on se sent bien. La question que j'aimerais vous poser, c'est à qui vous devriez, quel frère, quelle sœur devriez-vous inviter à manger? Avec qui devriez-vous pouvoir manger? Avec qui vous devriez manifester l'amour inconditionnel de Christ? Si le nom de cette personne vient dans votre pensée, peut-être c'est votre invité de ce midi. Mais juste après avoir dit cela, il va plus loin. Verset 9, il dit « exercer l'hospitalité ». Et l'hospitalité, c'est un très beau mot en grec, « philoxénia ».« Philéo », c'est l'amour, « xénia », « xénophobie », c'est l'étranger. C'est l'amour, l'hospitalité, c'est littéralement l'amour de l'étranger, des étrangers. Les étrangers, ce sont bien entendu les migrants, qui n'ont aucune, qui n'ont connu que jusqu'à présent que des camps de réfugiés, ils n'ont connu que des centres d'accueil de demandeurs d'asile. Ils n'ont connu que ça. Ils ont aussi connu les couloirs de la préfecture, et puis ils ont connu aussi toutes les associations de distribution de colis alimentaires dans lesquelles ils connaissent pas la moitié des produits. Imaginez ce que ça représente que d'être invité dans une famille et de goûter à la friend touch. Les étrangers, ce sont aussi les gens avec lesquels vous n'auriez a priori aucun point commun. D'ailleurs, on est vraiment des étrangers les uns pour les autres. Les étrangers, ce sont des gens dont les valeurs ou le mode de vie sont radicalement différents d'une autre. J'ai lu récemment le témoignage de Rosaria Champagne Butterfield. Elle a écrit sa biographie qui s'intitule « Les pensées d'une convertie insolite ». À l'âge de 28 ans, elle se déclarait ouvertement lesbienne. Elle venait de terminer un doctorat de littérature aux États-Unis. Elle a été enrôlée dans les universités américaines pour faire progresser les idéologies de la gauche radicale dans l'éducation et l'enseignement. Elle avait écrit un article publié dans le journal local sur les Promise Keepers. Ça, c'était un mouvement de chrétiens, d'hommes chrétiens, il y a 25 ans. Et elle avait écrit un article pour dénoncer leur pensée réductrice sur le rôle ou les différences sexuelles. Suite à cet article, elle a reçu tellement de courriers, une quantité de courriers phénoménale qu'elle a mis dans des boîtes, vous savez, les boîtes de papier là où on a 5 ramettes là, et il y avait les lettres d'insultes et puis les lettres d'admiration. Et parmi toutes ces lettres, il y avait une lettre d'un pasteur, Ken Smith, 70 ans. Et elle était embarrassée avec cette lettre parce que c'était une lettre qui était interrogative sur l'article, mais aussi bienveillante. C'était une lettre qui posait plein de questions. Des questions auxquelles elle n'avait jamais réfléchi, des questions qui la remettaient en cause, qui la poussaient à aller plus loin dans sa réflexion. Et elle était embarrassée avec cette lettre parce qu'elle ne savait pas dans quelle caisse la mettre. À la fin de son courrier, le pasteur Ken, là, et Smith, il avait juste dit, si vous voulez qu'on prolonge cette conversation, ou cette discussion, on pourrait se rencontrer. Une semaine plus tard, elle prend son téléphone, elle dit, bah oui, j'aimerais bien vous rencontrer. Alors, ça se passe bien, la conversation, et puis il l'invite à venir manger chez lui. Il lui dit, mais si jamais si ça vous gêne de venir chez des étrangers, je comprendrais tout à fait, on pourrait se retrouver au restaurant avec mon épouse, et puis... Et elle a trouvé ça plutôt, plutôt fair-play, plutôt chevaleresque. Et du coup, elle a quand même accepté d'aller chez eux parce qu'elle voulait quand même voir comment vivent des chrétiens, quoi. Comment c'est fait chez eux. Et donc, elle s'y est rendue. Elle avait une coupe à la garçonne. Coupe de cheveux à la garçonne, et puis elle avait des autocollants sur sa voiture qu'elle a garée devant chez le pasteur pour l'avortement, et puis pour les gays, et pour les lesbiennes, et etc. Elle raconte que ce dont elle se souvient de ce premier repas, c'était la prière faite au début du repas par Ken. Une prière sincère, intime, honnête, une prière dans laquelle il s'humiliait devant son Dieu, dans laquelle, quelque part, il se montrait vulnérable devant elle. Et ça, ça l'a interpellée. Elle pensait que la religion, c'était l'opium du peuple, destiné à calmer l'angoisse existentielle de personnes qui réfléchissent peu. Elle a observé comment il vivait. Elle a apprécié les conversations. Ils n'ont pas débattu de leur vision du monde tellement différente, mais ils ont parlé de vérités intimes qui les concernaient, ce qui les touchait. Le pasteur et son épouse n'ont pas partagé l'évangile ce jour-là avec elle. Ils ne l'ont pas non plus invitée à l'église, mais ils ont proposé de rester en contact, ce qu'elle a bien apprécié, et puis ce qu'ils ont fait. Elle a quitté leur maison avec plusieurs questions en tête. Dieu existe-t-il? Si Dieu existe vraiment, qu'attend-il de moi? Comment puis-je communiquer avec lui? Comment puis-je savoir ce qu'il veut? Est-ce que j'ai le courage de faire face à la vérité, quelle qu'elle soit? Voilà toutes les questions qu'elle avait dans son cœur. Avant de se rendre à l'église pour la première fois, il s'était passé 2 ans à rencontrer le couple Smith, à lire la Bible par elle-même, à étudier son propre cœur. Elle les a invités à son tour, chez elle, et puis dans son monde. Ils ont rencontré ses amis, ils l'ont vu évoluer dans sa vraie vie. En fait, elle savait que les Smiths priaient pour elle, pour qu'elle croie en Jésus, mais elle savait aussi qu'elle resterait leur amie, même si elle ne se convertissait pas. Et petit à petit, le Saint-Esprit a fait son œuvre dans son cœur et l'a convaincue de ce qui semblait impensable pour elle. Une nuit, elle a prié et demandé à Dieu de lui montrer si le message de l'Évangile était aussi pour elle. Elle a ressenti alors la présence de Dieu. Elle a prié, si Jésus est vraiment Dieu ressuscité, alors qu'il change mon cœur. Que s'il existe vraiment, et si elle lui appartient, qu'il lui donne le courage de le suivre, qu'il lui donne la force morale pour devenir une femme qui plaise à Dieu. Elle a prié pour recevoir cette force de caractère qui lui permettrait de se repentir véritablement. Se repentir du péché qu'elle ne considérait pas comme un péché jusque-là. C'était simplement sa vie, c'était toute sa vie. Elle a dit à Dieu, qu'il pouvait prendre sa vie pour la transformer, afin qu'elle soit comme il la voulait. Ce qui me touche là, c'est que cette femme, elle a pu faire cela et poser des vraies questions dans sa vie, simplement suite à cette invitation. Elle évoque sa conversion comme une catastrophe ferroviaire, un déraillement. Elle a connu une paix et une joie de vivre. Elle a connu un sens plus élevé à sa vie. Elle a connu l'amitié de Christ et le plaisir de vivre en communion avec lui. Mais c'était un bouleversement phénoménal. Par la suite, Rosaria a enseigné dans une université chrétienne. Elle s'est mariée avec un pasteur. Elle a travaillé à l'implantation d'église. Avec son mari, ils ont adopté 4 enfants. Mais toute cette histoire a commencé lorsqu'un couple a accueilli une étrangère, entre guillemets, qui habitait à 3 kilomètres de chez eux, mais qui vivait dans un tout autre monde. La connexion, elle s'est faite autour d'un repas, autour de conversations qui illustraient simplement l'Évangile. Combien de fois dans les évangiles on trouve Jésus à table, avec toutes sortes de personnes? La Bible rapporte des gens de mauvaise vie, des prostituées. Comment ces gens se sentaient à la table du Seigneur? Comment est-ce qu'ils se sentaient dans la présence de Christ? Ils se sentaient à l'aise. Au fond, ils étaient attirés par la personne de Christ. Ces personnes étaient touchées par ses paroles, elles espéraient en lui. Elles ont voulu le suivre, puis lui ressembler. C'est là, autour d'une table, dans une relation sincère, aimante, que les barrières étaient renversées et que l'Évangile entrait, pénétrait les cœurs. Dans l'Ancien Testament, les Juifs ne mangeaient pas avec les païens. C'est bien simple. Le soir, quand tout le monde se mettait à table, tout le monde était divisé. Il y avait les Juifs et les non-Juifs. Ils ne mangeaient pas les aliments que les païens mangeaient. Il ne fallait surtout pas mettre les pieds chez eux. Alors, manger ensemble, c'était impensable, inimaginable. Mais lorsque les apôtres ont commencé à prêcher le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, l'impensable est arrivé. Jésus a mis fin au combat pour la nourriture. Jésus a invité les Juifs et les non-Juifs à sa table. Il a renversé le mur de séparation. Et ça a commencé par une série de rêves troublants dans lesquels le Seigneur a ordonné à l'apôtre Pierre, l'auteur de notre épître, de manger des aliments que les Juifs ne mangent pas. Il a vu cette nappe avec tout un tas d'animaux, des animaux que les Juifs appelaient impurs. Et Dieu dit, la voix disait, tue et mange. Et Pierre dit, non, jamais de la vie. Tue et mange. Et lui dit, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et juste après, des gens viennent frapper à sa porte et l'invitent à se rendre dans la maison de Corneille. Un païen, un romain, un centenier, un chef de sang. Alors Pierre entre dans la maison de Corneille et puis il annonce que quiconque, dans la bouche de l'apôtre Pierre, c'était quelque chose. Quiconque, ça voulait dire, vous tous les païens, nous tous les juifs, tous les hommes de cette planète, quiconque croit en Jésus-Christ, reçoit en son nom le pardon des péchés. Reçoit en son nom, au nom de Jésus-Christ, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, le pardon des péchés. Ceux qui étaient là ont cru. ils ont été baptisés. Et puis, ils ont invité Pierre à rester quelques jours chez eux. Et ils ont mangé. Tous les jours où Pierre était là, ils ont mangé à la même table et ils se sont réjouis ensemble. Voyez-vous, jamais auparavant un juif pêcheur galiléen n'avait été l'invité d'un centurion romain. Le mur de séparation, de l'hostilité avait été renversé en Christ. Pierre et Corneille ont célébré la victoire de Jésus devant le monde en partageant l'hospitalité, en partageant un repas qui leur était... Ça, c'était une manière de partager. Jésus-Christ nous a réunis. Jésus-Christ nous a rassemblés. Dînez-vous avec des gens avec qui vous ne devriez jamais vous entendre? Des étrangers, des nations, des ethnies, des classes sociales différentes. Est-ce que vous mangez des trucs que vous aviez jamais pu imaginer manger? Des plats tellement exotiques? Un jour, j'ai été invité chez les Malgaches. Ils ont une plante, c'est des bread muffins. Ça, quand vous mangez ça, ça, votre langue fait comme ça, là. C'est étrange. Eux et raffole. Partager ça, c'était partager vraiment le... Voilà, c'était nous accueillir. Quand on fait ça, on célèbre l'œuvre de Christ. Vraiment. Maintenant, il y a un défi à l'hospitalité. Merci pour le sketch, c'était super de... J'ai pas grand-chose à ajouter. Et Pierre, il dit ici, exercez l'hospitalité sans murmure. Sans murmure. Et s'il dit sans murmure, c'est que, naturellement, quand on va exercer l'hospitalité, on risque de murmurer. L'hospitalité, ça exige un travail supplémentaire. L'hospitalité, ça peut s'avérer coûteux. Ça occasionne du dérangement. Ça exige du temps. Ça cause de la fatigue. En temps de persécution, l'hospitalité, ça peut être même mortel. Par conséquent, l'hospitalité constitue une mise à l'épreuve concrète et pratique de notre amour pour Dieu et pour son peuple. Vous savez, l'amour, ça peut être une idée un peu vague, abstraite. J'aime tout le monde. L'hospitalité, ça n'est pas vague. C'est pas virtuel. L'hospitalité, c'est concret. L'hospitalité, c'est spécifique, c'est tangible. L'hospitalité, c'est l'amour en action. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'exercer l'hospitalité? Excusez-moi, je vais être un peu direct. Nous sommes tous foncièrement égoïstes. Nous ne voulons pas partager notre intimité et notre temps avec d'autres. Nous nous préoccupons beaucoup de notre confort. Nous ne voulons pas être dérangés. Par avarice, nous ne voulons pas partager notre nourriture, notre maison, ni notre argent. Nous craignons qu'on endommage nos biens. Si les enfants sautent sur le canapé, Satan vous montrera toujours une bonne raison de ne pas exercer l'hospitalité. Vous n'avez pas le temps. Oh, dimanche prochain. Ah, oh, mais dimanche prochain, ça tombe mal. Ah, il y a le sport des enfants, la musique, et il y a l'église. Vous auriez bien aimé. Mais c'est pas possible. Vous avez une semaine en plus tellement fatigante. Au boulot, c'était terrible. Vous avez une cuisine en chantier. Ça, c'est pour chez nous. Vous avez le lave-vaisselle en panne. Ah, c'est imparable comme excuse. vous avez le four en panne. Non, et puis surtout, vous n'avez pas assez de chaises. Invitez la famille Niblack. Vous n'avez pas assez de place, pas assez de fourchette. Et puis tout ça, ça a quand même un coût financier, je ne voudrais pas dire, mais... Sans compter le risque qu'on casse la vaisselle et les verres hérités par la grande-tante, qu'on sort jamais. Non, vous voyez le truc? Non, mais je vais vous... L'hiver... Non, écoute, je vais t'inviter avec toute la famille, mais l'été, comme ça on fera un barbecue, d'accord? Ok. L'été. Eh, ça vous plaît une... vous aimez la raclette? Ok, bon, on fera une raclette cet hiver, d'accord? Oui. Finalement, jamais on invite. Toutes ces attitudes sont égoïstes. Et l'égoïsme, c'est un péché. L'égoïsme caractérise notre ancienne vie non régénérée. L'égoïsme est contraire à l'amour. En exerçant l'hospitalité, nous partageons nos biens les plus précieux. Nous partageons notre famille. Nous partageons notre maison, nos finances. Nous partageons notre nourriture, notre intimité. Et notre temps, j'imagine que c'est, l'intimité, c'est pour ça qu'on doit ranger, faire son lit. Je ne vais pas vous recevoir dans ma chambre, en fait, mais mon lit est fait quand même. Excusez-moi encore. Nous sommes orgueilleux. Nous sommes orgueilleux. Nous envisageons l'hospitalité comme l'émission... un dîner presque parfait. Vous voyez le genre? On cherche à impressionner ses invités. Vous imaginez que quand ils vont venir, ils vont noter la déco. Ils vont noter la musique d'ambiance. Ils vont noter l'accord vin avec les mets. Ils vont noter aussi la propreté, le rangement. Ils vont noter l'accord des saveurs. Et comme vous avez peur d'avoir une mauvaise note, alors vous n'invitez pas. L'hospitalité, ça n'est pas recevoir. Recevoir à la française. Ce n'est pas ce que vos invités pensent que vous êtes. Que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est ce que Jésus-Christ a fait de vous, ses enfants. Vous avez déjà été bien notés. Et cette note-là ne changera pas avec une invitation ratée, avec une tarte brûlée ou je ne sais quoi. On imagine en tant que Français qu'il faut nécessairement entrée, plat, salade, fromage et dessert, café et pousse-café. On pense qu'il faut les couverts, les trois rangées de couverts là de chaque côté, et puis aussi devant, et puis au moins trois verres devant, avec la flûte à champagne. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on cherche à impressionner nos invités? Non. On ne parle pas de ça. L'hospitalité, elle n'est pas liée avec ces choses, elle est liée avec notre cœur. On peut ouvrir notre maison sans ouvrir notre cœur, d'accord? Mais il est presque impossible d'ouvrir son cœur sans ouvrir sa maison. La Bible dit qu'un ancien, un responsable d'église, doit être hospitalier. 1 Timothée chapitre 3, Tite chapitre 1, c'est suffisamment important pour qu'un homme soit écarté de la charge d'ancien parce qu'il n'est pas hospitalier. J'ai réfléchi à ça. Depuis quand on a écarté un ancien parce qu'il n'était pas hospitalier? On imagine que l'hospitalité nécessite une planification à long terme. Bon, peut-être que vous êtes super overbooké qu'il faut vraiment vous prendre longtemps à l'avance, bon, ok, pourquoi pas. Mais l'hospitalité, c'est aussi, comme on l'a vu dans le sketch, de façon spontanée. Tu passes à l'improviste et tu es bien reçu. C'est avant tout une affaire de cœur, de disposition de cœur, d'accueil avec son cœur. Les gens ne s'attendent pas à vivre Masterchef quand il vient à l'improviste. Ils ne vont pas s'offusquer parce que le frigo est vide. Non, ce qu'ils veulent, c'est d'être eux accueillis par vous. Ils veulent juste un peu d'espace, un peu de place dans votre cœur, dans votre vie. C'est vrai, c'est une affaire coûteuse. Mais considérez le prix que Dieu a payé pour que nous soyons accueillis dans son royaume. Jésus-Christ a souffert la croix, a livré toute sa vie pour qu'on puisse être accueillis par lui. Lorsque vous inspectez votre cuisine, à la fin d'une soirée avec tous vos invités, et ils viennent de partir, la vaisselle s'est empilée dans l'évier, il y a des verres partout, à cause des trois rangées de trucs, et puis il y a des gamelles pleines de graisse, là, dans la cuisine. Il y a le caramel qui a collé au fond de la casserole. Et puis, il faut nettoyer tout ça. Parce que demain, on recommence. Pensez à ce moment-là que ce sont des armes qui ont été bien utilisées pour l'extension du royaume de Dieu. C'est la preuve que vous avez mis en œuvre l'Évangile pour accueillir des gens, pour accueillir des personnes dans votre vie. L'hospitalité, ça vaut vraiment la peine. Et c'est une illustration de ce que Dieu a fait pour nous. Je termine avec le Dieu hospitalier. Les chrétiens devraient particulièrement aimer les étrangers parce que nous avons été aimés par Dieu, lorsque nous étions étrangers. Nous avons été aimés par un Dieu prodigieusement hospitalier. L'accueil, c'est une métaphore du salut. Comme le décrit de manière tellement forte la parabole du fils prodigue que l'on a chantée. Un père fortuné est offensé parce que son plus jeune fils qui, comme s'il souhaitait sa mort, exige l'héritage avant la mort de son père. Le fils part au loin et il gaspille toute sa fortune dans de mauvaises choses. Bientôt, il n'a plus rien, une famine éclate, il est alors affamé. Il voudrait pouvoir manger la nourriture qu'on donne aux cochons, mais personne ne lui en donne. Et là, il pense, mais dans la maison de mon père, les serviteurs sont là et ils mangent à satiété. Alors n'osant pas imaginer qu'il serait restauré comme fils, mais espérant qu'il puisse trouver une place de serviteur dans la maison de son père, le fils coupable revient chez son père. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'accueil à la maison est extravagant. Sans aucune hésitation, le père accueille son fils prodigue. Il court même devant lui. Il le ramène dans sa maison. Il organise une fête pour célébrer le retour de son fils. Vite, une robe, vite, des chaussures pour ses pieds, vite, un anneau à sa main. Vite, tuez le veau gras. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Lorsque nous invitons des gens chez nous, nous assumons le rôle de père et reproduisons l'amour divin que nous avons reçu. Chaque effort pour accueillir, chaque pain, chaque minute passée derrière vos fourneaux vous permet d'entrer dans ce que Dieu a fait depuis le commencement du monde, à savoir, il a aimé l'humanité et l'a accueilli. L'une des plus belles images de la grâce, on l'a lu tout à l'heure, c'est cette invitation de David à Mephibosheth. Il est le petit-fils du roi Saül. Saül, ça a été le pire ennemi de David. Et il invite Mephibosheth, infirme, à venir manger à sa table tous les jours. Imaginez la chose. Mephibosheth arrive, il se jette sur ses genoux et il dit « Qu'est-ce que je suis ? Je suis un chien mort. Et tu m'accueilles chez toi, à ta table, toi le roi. » Il est bouleversé. C'est étranger, c'est tellement loin de ce qu'il pouvait imaginer. C'est tellement loin de ce qu'il mérite. Et pourtant, il est accueilli à la table du roi. Vous savez, Jésus nous accueille à sa table. Ce n'est pas un hasard si Jésus, pour nous souvenir de son œuvre rédemptrice, son œuvre de salut, nous a laissé une invitation à une table. Il nous invite à partager sa victoire sur le péché et la mort, et sa mort, par un repas. Vous voyez comment c'est lié à l'Évangile ? L'hospitalité, prendre un repas ensemble. Dans l'Apocalypse, Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Quand il veut exprimer l'image d'une relation restaurée, d'une relation aimante, Jésus parle d'un repas qu'on prend ensemble. Quand vous invitez quelqu'un, faites-le avec cet esprit-là, faites-le avec cette pensée-là, d'offrir, d'accueillir, d'ouvrir vos cœurs, vos vies. Ce n'est pas simplement une affaire de manger. C'est ouvrir nos vies, nos cœurs. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si vous entendez sa voix aujourd'hui parler à votre cœur, ouvrez-lui. Il viendra à vous, il mangera avec vous, il restaurera sa communion parce qu'il est mort pour vous. Parce qu'il vous invite, il a tout payé, il a tout préparé pour qu'on puisse être accueilli pour l'éternité dans son royaume. À moins de nous ouvrir la porte les uns aux autres, la réalité de l'Église locale en tant que famille, frères et sœurs, ça restera de la théorie. Et nous ne souhaitons pas vivre de la théorie, juste là. Parler en théorie, mais ne pas vivre les choses dans notre quotidien. C'est pourquoi on propose de ne pas rester théorique, mais de passer à la pratique et de programmer régulièrement des dimanches de l'hospitalité. Des dimanches pour ouvrir nos maisons les uns aux autres. Nous ne pouvons pas apprendre à nous connaître. Nous ne pouvons pas nous approcher de nos frères et sœurs juste par 1h30, passer le dimanche matin au milieu de tout ça, de tout ce monde. Ce n'est pas possible. C'est votre foyer qui est l'endroit idéal où bâtir de nouvelles relations et resserrer vos liens. J'ai entendu dire, oh, on ne connaît plus personne. On n'arrive plus à se faire des amis dans l'église. J'ai une solution pour vous. Regardez bien tout ce monde-là et dites, l'année prochaine, j'aurai invité tout ce monde-là chez moi. Et là, je peux vous dire que vous allez avoir beaucoup d'amis. Vous n'êtes pas obligé de les inviter tous ensemble. Votre foyer, c'est le meilleur outil dont vous disposez pour rendre notre Église plus aimante. Vous avez déjà vu ça? Oh, ça manque d'amour. Ouvrez vos maisons. Ouvrez vos vies, ouvrez vos cœurs. Ça manquera jamais d'amour. Votre foyer est également le meilleur outil pour faire progresser l'Évangile. Et c'est pourquoi on propose d'avoir des dimanches pour inviter chez nous des amis, des collègues, des voisins. Un repas ou un apéro ou un goûter, peu importe, dans la perspective de les connaître et de leur faire du bien. Et si Dieu le permet, de leur présenter l'Évangile avec des mots. Mais de toute manière, on leur a présenté l'Évangile par notre accueil. Dans la perspective de les connaître, de leur faire du bien. Quelle est la nouvelle famille qui s'est installée dans votre quartier? Quel est votre nouveau collègue au boulot? Y a-t-il quelqu'un qui souffre autour de vous? Faites-leur du bien en les invitant chez vous. Intéressez-vous à eux, mais intéressez-vous sincèrement à eux. Que Dieu vous bénisse dans cette œuvre pour présenter l'Évangile. Amen. Avant que pendant que nos frères s'approchent, nos musiciens s'approchent pour nous conduire dans un dernier chant, je voudrais qu'on s'incline dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te remercier de tout notre cœur pour l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, nous étions des étrangers, nous étions des ennemis, Seigneur, pour toi. Et puis tu nous as accueillis. Tu as tout payé pour nous. On n'a rien eu à faire. On est venu tel que nous étions, pécheurs. Et puis tu nous as aimés. Tu nous as révélé ton amour. Maintenant tu nous accueilles à ta table. Tu fais de nous ton épouse. Tu fais de nous tes rachetés, tes enfants pour l'éternité. Seigneur, nous te prions pour que la manière dont tu nous as accueillis, l'hospitalité que tu nous as prodigieusement accordée, puisse s'imprimer sur nos cœurs, dans nos vies, les impacter pour qu'on puisse reproduire ces choses, comme tes disciples, comme tu nous invites à te suivre. Nous voulons apprendre à le faire, à notre niveau, auprès de nos collègues, de nos amis, de nos voisins, auprès de nos frères et sœurs dans la foi. Mais Seigneur, que l'hospitalité soit vécue au milieu de nous, avec sincérité de cœur. Nous te le demandons. Fais cette œuvre dans nos vies, à chacun, par Jésus-Christ. Amen. Amen.